RMC.
Inbound card right to Jordan. Time winding down. Michael for three. Yeah! Yeah! Yeah!
Basket time.
Final seconds. Bryant for the win.
Pierre Dorian.
C'est Basket Time, votre rendez-vous basket d'RMC que vous retrouvez avec grand plaisir tous les mardis sur rmc.fr. La Dream Team du jour sera composée d'Arnaud Valadon, de Stephen Brun et de Frédéric Weiss. Bonjour messieurs.
Bonjour. Salut Pierrot.
Vous avez passé une belle semaine de basket.
Oui, superbe.
Qu'est-ce qu'on retient dans la semaine?
Les
Spurs gagnent pas un match.
Les Spurs, c'est catastrophique.
C'est affreux.
C'est pire qu'on pensait presque.
Wow. Ouais, bon, moi, ce que je retiens de la semaine, c'est que le Real Madrid joue un basket exceptionnel.
Avec Chus Mateo.
Ah ouais.
Gershon est blessé, malheureusement.
Ça fait longtemps que je n'ai pas vu une équipe de basket jouer comme ça.
Vous savez quel est le thème de la semaine? Bien sûr que vous le savez, puisque vous avez préparé l'émission. Génération 2024. Pourquoi? À cause d'un garçon qui nous enchante, c'est Bilal Koulibaly. C'est lui qui a occasionné ce thème de Basket Time. On va donc commencer par lui. Bilal Koulibaly est-il déjà incontournable pour les JO de 2024? Donc le thème, c'est la génération 2024, ceux qui vont faire les Jeux pour l'équipe de France. Bilal Koulibaly est-il déjà incontournable? Ensuite, débat sur le meneur de jeu de l'équipe de France à Paris 2024.
C'est l'Arlésienne ça, hein?
Tant que personne ne se sera imposé, on va en parler. Hein. Tant que Thomas Hortel n'aura pas été ramené par la Fédé, on va en parler. Là, on n'en parlera plus. Non, c'est même pas sûr d'ailleurs. Et puis ensuite, là, on va te faire plaisir, Fred. De la génération 2024, on va faire un saut dans le temps, dans la partie historique, jusqu'en 2000 à Sydney.
Moins 24.
Vous allez nous faire redécouvrir un membre de cette génération argentée. Et nous aurons en guest star le dauphin devenu requin, Laurent Ciara. Il sera là tout à l'heure.
Il sera là.
Ça fait plaisir, j'espère.
Je me rappelle de
bons souvenirs. Ouais. Vous êtes encore en relation, tous, là?
Pas énormément.
Pas plus que ça.
On essaye, mais pas.
C'était qui? Il n'y a pas un petit repas des médaillés, de temps en temps? Il n'y a pas un petit groupe WhatsApp?
C'est un peu comme France 98.
Si, WhatsApp, mais il répond pas.
Là, par contre, pour prévoir un buffet à volonté, là, hein, parce que c'est un gamelle. C'était qui ton gars sûr à l'époque?
Moi, j'étais avec Cyril Julien.
Cyril Julien. Ouais, et là, t'as des nouvelles quand même, non, de temps en temps?
Très, très peu. Et lui, il a beaucoup coupé du basket.
Ah ouais?
Ouais.
Très bien.
Il fait des trails, tout ça, il fait des ultras, des trails de ouf. Cyril Julien
fait du trail.
Il fait Iron Man. Il est affûté, il est tout maigre.
Bon, bah, on le salue, je suis sûr qu'il écoute le basket.
Il a jamais été aussi en forme quand il jouait au
basket. Vu que le nombre de téléchargements ne cesse d'augmenter, forcément, les anciens basketteurs écoutent Basket Time, c'est sûr. Donc, Cyril Julien, on te salue.
Oui, bien sûr.
C'est parti pour un spécial Génération 2024. 4 Basket Time tous les mardis en podcast sur rmc.fr.
Cal is being challenged by the rookie Koulibaly.
Koulibaly knocks down a three. Bilal Koulibaly.
Gafford corner three. Koulibaly.
They're making it tough.
There's Bilal.
Going to the rim with a tough layup.
There's a three for the rook.
Bilal splashes the three.
He's in the corner.
Here's Bilal all alone for another three. And how about that?
There's a block by Koulibaly.
Another block by Koulibaly.
Look how long his arms are. You cannot play with the ball in front of Bilal. I mean, it's going to be a cookie every time.
Bilal Koulibaly's defense is elite so far.
J'ai l'impression qu'ils ont du mal à dire Bilal.
Bilal.
C'est un peu chic la façon de dire Bilal. Alors, Bilal Koulibaly est-il déjà incontournable pour les JO 2024, sachant que Il n'a encore jamais été appelé par Vincent Collet, on est bien d'accord?
Tout à fait.
Jamais.
En tout cas, Washington, il a trouvé sa place, ça a été assez rapide, Arnaud. Hein.
Oui, il est responsabilisé, 8 points, 4 rebonds, 2 passes, 50% au niveau de l'adresse de son tir, 43% à 3 points. Il joue 30 minutes par match en sortant du banc. Il a juste démarré un match cette saison sur la dizaine jouée par Washington. Alors c'est vrai que c'est quand même une équipe minée par... Vous allez m'excuser du terme, mais l'arnaque un peu de Jordan Poole. Puisque...
L'arnaque carrément Jordan Poole.
Ah, c'est...
Mi 30 cette nuit.
Ouais. Il a mis 30 cette nuit, mais bon...
Ouais, je me disais, j'ai pensé à Arnaud, je me suis sûr qu'il va faire un papier pour le détruire, il va mettre 30.
Ouais. Mais bon, quand même, les Wizards qui sont candidats pour le premier choix de la draft 2024, Bilal Koulibaly, qui a fait une pointe à 20 points il y a 9 jours sur le parquet de Brooklyn, on rappelle, 1m95, athlétique, bon défenseur, sélectionné à la 7e place l'an passé par Indiana, et tout de suite tradé par Washington, une équipe qui le voulait. Et puis, puisque c'est un petit peu la question de ton débat, Pierre, qui en poste 3 en équipe de France? Alors, on peut penser qu'avec avec l'intégration de Victor Wembanyama probablement sur un poste 4 aux côtés de Rudy Gobert à l'intérieur. Nicolas Batum se retrouverait peut-être plus sur le poste 3. En Indonésie, il y avait Tarpey et Ouattara qui paraissent quand même assez hors-jeu aujourd'hui. Cordinier peut faire partie en raison de sa polyvalence sur les postes 1, 2 et 3, mais peut-être qu'on lui préférera plus une rotation sur les lignes arrière. T'as les outsiders, Luau Cabarro, déjà international, qui n'a pas fait les dernières campagnes, la dernière campagne. Bon en Euroleague, un peu plus en retrait en Betclic Elite avec l'ASVEL, ou encore Ousmane Dieng, mais là, l'ailier d'OKC pour sa deuxième saison joue quand même assez, trop peu du côté du Thunder.
Tu m'as sorti que des noms de mecs pas du tout incontournables, que dire que Bilal Koulibaly, il y est.
Il y a Batum.
Bien sûr, derrière, il y a Nico Batum, mais oui. Pour toi, c'est une évidence, Fred ?
Ben, je sais pas. En fait, je me rappelle de ce qu'avait dit Nicolas Batum, on met tout le monde dans la même pièce, et celui qui résiste à la fin est celui qui est l'élu. J'ai envie de dire, il faudrait qu'on parle.
Tu sais comment ils font en rugby ? Ils mettent les deux mecs ou les trois ou quatre dans une pièce avec un steak, et celui qui mange le steak a gagné.
Ok.
Celui qui ressort de la pièce.
Voilà, c'est ça. celui qui reste vivant. Non, mais je pense que la concurrence, c'est toujours sain. Je pense que Bilal Koulibaly, il a évidemment un avenir radieux avec les Bleus. Mais j'ai pas envie de dire qu'il y a des incontournables, en fait. Je crois qu'il n'y a pas d'incontournable dans cette équipe, à part peut-être sur les postes intérieurs, mais sur l'extérieur. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a dit Vincent Collet. Hein. Il dit on a trop d'incertitudes.
Alors, trop d'incertitudes à ce poste-là ou en général ?
Surtout sur les postes extérieurs.
Voici en tout cas ce qu'il pense, le sélectionneur des débuts de Bilal Koulibaly en NBA.
Oui, je suis très content en tout cas de ses débuts. Voilà, mais ça correspond effectivement à Bilal. Qui va toujours, lorsqu'il intègre une nouvelle équipe, un niveau plus élevé, observer, s'approprier un peu ce qu'il faut faire pour être justement utile à cette équipe. Il l'avait très bien fait avec nous l'an passé. Et là, il recommence de la même façon. Et effectivement, je pense que ça va bien se passer. Parce que non seulement il est déjà bien, mais je crois qu'il va continuer à monter.
C'est un talent qui pourrait être précieux pour l'équipe de France ?
Sans aucun doute, mais il aurait déjà pu l'être l'été dernier. Hein. Au même titre que Victor, j'avais déjà imaginé le prendre.
Évidemment, c'était sur Bein Sport lundi, vous avez reconnu la voix de Jacques Monclar. Qu'est-ce qu'il veut dire, il aurait déjà pu l'été dernier ?
À un moment donné, il était dans les discussions pour aller à la
Coupe du Monde. Mais pourquoi il n'est pas venu ?
Pour les mêmes raisons que Victor, je pense qu'il voulait se préparer à la draft et qu'il a été drafté très haut, donc je pense que ça a été un bon choix.
On vous dit les choses ou vous voulez arrêter de vous faire des ennemis dans le basket ? Ok. Donc en gros, il voulait et Bilal et Wembanyama, mais sauf que la force obscure a dit non. En gros, c'est ça, quoi. Hein. Non, mais on est d'accord. Bon, vous êtes très gêné. Moi, je ne le suis absolument pas.
Moi, je suis pas gêné. Évidemment, du tout. Ils ont préparé une saison NBA. Moi, on l'a déjà dit pour Victor. Je ne sais pas pourquoi on dirait pas la même chose
Mais ça a été plus médiatisé parce que Victor a été numéro 1 de la draft et que c'était un peu la nouveauté de cette équipe de France. Mais Bilal Koulibaly, je pense que c'est exactement la même situation que Victor Wembanyama.
Son entourage a dit non, il ne va pas et puis terminé, quoi.
Vraisemblablement.
Je pense que dans son collègue, là encore en travers de la gorge, hein, même si il est chez les mêmes agents, mais bon, c'est peut-être, ça se joue pas, peut-être pas que
non,
là,
non,
mais bon,
non. Après,
il a pas l'air ravi en tout cas. Bon, bref, qu'est-ce qu'il doit faire pour y être, toi qui dis il n'y a aucun incontournable ? Quelle saison doit-il faire ?
Non, je pense que la saison qu'il est en train de faire, c'est intéressant. Alors Arnaud a dit ses chiffres, mais moi j'ai envie de donner ses chiffres sur les 6 derniers matchs. Il a plus de 11 points, 5 rebonds à 60% de réussite, donc c'est-à-dire qu'il continue à apprendre. Bilal Koulibaly, on l'avait vu en Betclic Elite, c'est quelqu'un qui, pour gagner sa place, va défendre. Donc défensivement, il va être impeccable, irréprochable avec ses longs bras, ses longs segments, cette capacité à contrer, à intercepter. Et ensuite, si en plus il met des points en NBA, il va devenir hyper important, hyper intéressant. Et Arnaud l'a dit aussi, dans cette équipe, quand on joue avec Jordan Poole, waouh.
Pour avoir des ballons.
C'est déjà pas simple. Donc, donc un mec qui est serein, qui défend bien et qui met ce qu'on lui donne.
Il en met quand même des points. Hein.
Oui, mais c'est pour ça.
Parce que c'est un peu hurra et que voilà, il n'y a pas vraiment de plan. Mais. Quand même, on pouvait se poser des questions quand Bilal Koulibaly, qu'on n'avait pas forcément vu venir l'année passée, hein, vraiment son éclosion.
Ça serait un menteur, celui qui, dire au début de saison.
Qui avait démarré en espoir à Levallois et qui avait fini titulaire et finaliste de Betclic Elite. La façon dont ce garçon apprend et arrive à gravir les marches. Franchement, moi j'ai envie de te dire, oui, il va être au jeu. Enfin, en tout cas, peut-être déjà dans une liste élargie. Mais
quand Vincent Collet voulait le prendre pour la Coupe du Monde, il y a aucune raison pour qu'il fasse pas partie de l'épopée olympique parce qu'il est meilleur, il a progressé. Moi, ce qui m'impressionne, c'est ses qualités défensives. On les connaissait déjà. On l'a entendu dans les extraits. Mais défensivement sur l'homme, il est face à Luka Doncic, il a été très bon. Cette nuit, face à Damien Lillard, il a été très bon aussi. Il l'a gêné, même si Lillard est un attaquant hors pair, donc forcément Lillard met des points, mais il a été très
très bon. Moi, ce qui me surprend, c'est sa capacité à être bon offensivement. Il prenait à peine un tir de moyenne en Beklik Elite à 3 points. Là, il est quasi à 3 tentatives, il est à 43%, sachant que la ligne est plus loin. Donc, il a dû bosser cet été et plutôt à bon escient. J'aime aussi son caractère, parce que c'est un gamin de 19 ans qui, après une rousse face à Dallas, dit les choses en disant on ne respecte pas les consignes, on ne défend pas les uns avec les autres. Donc c'est rare de voir un rookie comme ça dans une équipe où il y a quand même des vieux briscards comme Kyle Kuzma ou comme Jordan Poole d'être capable de dire les choses.
Il a 24 ans, Jordan Poole.
Il a quand même une expérience. Quand on parlait de rajeunissement et de mettre un coup de jeune dans cette équipe de France, pour moi, Bilal Koulibaly, c'est ça en fait. C'est ça, un peu de fougue, un peu de jeunesse, un peu de mecs qui ont envie, qui ont la niaque. Donc il faut qu'il soit dans. Il faut qu'il se lance cette équipe-là. Il y a un truc.
Pour toi, il est incontournable déjà ou pas ?
Incontournable dans le jeu. Je ne sais pas s'il aura d'énormes responsabilités, mais dans les 12, pour moi, il faut qu'il y soit.
Si c'était demain là, les jeux,
oui,
tu le prends ?
Oui, bien sûr.
Surtout
je le
quand
tous
on voit.
Je le
prends
tous les jours.
Oui.
Bien sûr, tout le monde le prend. Mais après, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir la forme à l'instant T. C'est ça qui est plus important pour moi. Mais...
Non, surtout, tu le prends parce que quand tu vois, je prends l'exemple sur le Canada, parce que ça a été très frappant sur ce mondial. C'est matché avec l'intensité physique et le potentiel athlétique. Et un Bilal Koulibaly, je trouve, rentre parfaitement dans ce cadre-là.
Maintenant, moi, il y a un truc, et on en parlera aussi pour les autres Français dans le Talk 2, Pierrot, il y a un truc qui me gêne, c'est que des garçons comme Kylian Hayes ou comme Bilal Koulibaly
zéro vécu
jouent dans des équipes qui ne gagnent pas
son
un match.
Âge, oui. Après, tu dis ça, mais Victor non plus. Hein.
Oui, mais Victor a des chiffres tout là-haut. Ça veut dire que je ne te dis pas que tu ramènes la culture de la loose en équipe de France, mais quand tu es en équipe de France dans des compétitions de haut niveau, Coupe du Monde, Jeux Olympiques,
oui,
c'est la gagne.
Tu n'as pas vécu les moments importants des Money Time qui font gagner les grandes compétitions.
Voilà, exactement. Les moments importants, les possessions, parce que tu regardes Washington jouer,
c'est
les possessions,
quoi.
Ils n'en ont rien à cirer. Ouais. Ils n'en ont rien à cirer.
Les attitudes,
ça, c'est un souci.
C'est une des pires équipes défensives. C'est une équipe qui joue le plus de possessions par match. Ils shootent très tôt. C'est un gloubi-boulga de basket. Et j'ose espérer que Bilal Koulibaly va être capable de faire la transition entre ce basket-là et un basket un peu plus cadré où tu as la pression des résultats où il faut gagner match, et là il ne gagne pas.
Oui, mais il y a la connexion Vincent Collet aussi qu'il faut prendre en compte. Il l'a eu pendant une année, il a appris
connexion
à gagner quand
Victor
même, parce
aussi.
Qu'ils font quand même une très belle saison. Il y a Victor effectivement qui connaît aussi. Je pense que je suis moins inquiet pour Koulibaly que Kylian Hayes, parce que Kylian Hayes, c'est compliqué. Donc
ça fait 4 ans qu'il n'aime pas un match. Hein.
Oui, c'est
Kylian
ça.
Alors, on va parler de Kylian Hayes dans le débat sur les meneurs. Avant cela, quand même, sur l'aspect défensif, même si vous avez tous mis en avant le fait qu'il progresse sur les points inscrits, on va quand même écouter, parce que c'est pas n'importe qui, l'hommage entre guillemets de Giannis Antetokounmpo après la large victoire, certes, de Milwaukee face à Washington, sur le travail défensif de Bilal Koulibaly, qui était donc sur Damian Lillard.
Il a vraiment eu de très bons passages. Il a joué très dur en défendant sur Damien Lillard et il n'avait pas peur. Quelques coupes dans le dos de la défense, quelques dunks en transition. Il a vraiment affiché un très bon état d'esprit. Il n'essaye pas de prendre la lumière, il joue dur, il essaye de jouer de la bonne manière et d'aider ses coéquipiers. Je pense qu'en ayant cette attitude, il aura de plus en plus la balle et une confiance encore plus grande de la part de son coach. Il faut qu'il continue à travailler sur son jeu et le ciel sera la seule limite pour lui.
Ça, c'est un shérif dans un western qui a fait la traduction.
Ouais. Il était impliqué dans la trame. Hein. Il était impliqué. Mais ce qui est bien, c'est que Bilal, il a cette capacité à défendre sur les postes extérieurs, ça on le sait, à tenir les duels. Mais il est quasiment à un compte par match. Ça veut dire que près du cercle, avec son envergure et ses longs segments, il est capable aussi d'avoir un petit peu de dissuasion.
Est-ce qu'il marque déjà les esprits en NBA sur sa défense ? Est-ce qu'on parle déjà
Oui. Beaucoup de gens en parlent. Yanis en parle. Mais je crois que c'est à lui qu'on aurait dû demander s'il ne pouvait pas être naturalisé français finalement. Parce qu'il parle
Yanis.
Vraiment très bien des Français. Il est toujours très sympathique, mais on parle de l'ADN de l'équipe de France, et cet ADN défensif, ben justement avec un Bilal Koulibaly, je trouve que ça a tout sa saveur.
Alors, le seul souci...
Et puis ce qui est bien, c'est qu'il joue des minutes. Alors, dans
et puis il va continuer à jouer.
Oui, il va continuer à jouer. Donc ça, c'est important.
Alors, le seul souci, entre guillemets, c'est que s'il est au JO, tout le monde ne peut pas y être. Donc je vais vous donner des noms, une liste de noms, vous allez me dire qui est en danger. Et des noms qui.
Alors, il y a un nom que je n'ai pas mentionné.
Sont des vrais cadres de l'équipe de France, oui, Arnaud.
Oui, parce qu'il est polyvalent et qu'il peut jouer un peu trois, c'est Franck Ntilikina, qui, pour le coup, est-ce que tu peux avoir les deux dans une liste
Franck, il a l'air de jeu.
Mais je te parle sur le profil défensif.
Mais à un moment donné, il faut que la France se retrouve son ADN défensif. Donc arrêtons.
Toi, tu peux emmener les deux. Non, mais c'est juste une question.
Moi, j'en mets les deux. Jouer ensemble, je peux te dire que ça te fait une barrière.
À un moment donné, il faut des mecs qui défendent. Si tu veux gagner une compétition, il faut défendre. Il faut arrêter. Et aujourd'hui, on a pas mal de mecs qui sont en souffrance défensivement. Donc Franck Ntilikina, Bilal Koulibaly, ils ne sont pas du tout en concurrence l'un contre l'autre. Pardon ?
Tu penses à qui
Alors, moi, je vais vous donner une liste de noms de joueurs extérieurs.
Je te le dis. Hein, pour moi, Nando est en grande souffrance défensive.
Oui, il est en grande.
Alors, De Colo, Cordinier, Causeur, Fournier, Luaou Cabarro, Okobo, lesquels sont en danger dans cette liste ? Réellement, pour les jumeaux, réellement, là. Dites-nous la vérité.
Moi, je pense qu'Okobo, c'est même plié. Je pense que
Elie Okobo, il n'est plus dans les petits papiers.
Vu la dernière expérience, j'ai du mal à imaginer que Vincent Collet le reprenne, mais après, on ne sait jamais.
Luaou part quand même avec un temps de retard.
Il part avec un temps de retard, même si ce qu'il fait en Euroleague, c'est vraiment pas dégueu. Mmh. Moi, pour moi, Causeur, malheureusement, ça sera une licorne toute sa vie. J'ai un peu cette impression-là.
D'accord.
Moi, j'aime beaucoup Cordinier. Je rejoins Stephen par rapport à ça. Cordinier, son intensité, sa dureté, sa
Il reste beaucoup de place, quand même. Hein.
Moi, je prends Rodrigue.
Rodrigue Beaubois.
Sauf que lui aussi, c'est une licorne. Il ne viendra pas.
Tu vois, il ne viendra pas.
C'est un fantasme. Alors,
sa dernière déclat était quand même bien plus tranché que ce qu'il a pu faire précédemment.
Écoute ce qu'a dit Vincent Collet.
Vous voulez l'écouter, Rodrigue Beaubois, sur sa déclaration d'intention pour les JO ?
Vas-y.
Sur la chaîne Squeak.
Vas-y.
Allez, on l'écoute.
Si les choses se passent bien, moi je suis partant. Je le dis officiellement, mais bon, la saison est longue. On a la chance d'avoir énormément beaucoup de talent en France. Donc le coach a le choix. Mais bon, si les choses sont bonnes cet été, je suis partant et je le dis haut et fort. Voilà.
Qu'est-ce que ça veut dire si les choses se passent bien?
C'est ça, c'est exactement ça. Pour moi, ça veut tout et rien dire.
Non, il l'a jamais dit comme ça.
C'est une déclaration d'attention, mais si toutes les planètes sont alignées.
C'est-à-dire s'il change pas de club, c'est-à-dire quoi?
Non, mais Vincent Collet a répondu à ça. Hein. Il a dit oui, mais il m'avait déjà fait le coup l'année d'avant, il est pas venu.
Donc, sinon, il le prend.
Après, déjà, faut voir si c'est un groupe élargi.
Ce serait dur de pas le prendre quand même.
Mais alors, du coup, qui paye les pots cassés là? Admettons que Rodrigue soit, que Cordinier y soit, il y a de la place pour De Colo et Fournier?
Pour Fournier, oui.
Vous êtes pour Fournier, oui, qui ne joue pas, alors que Nando joue.
Oui, mais là on est le 21 novembre, il reste encore 6 ou 7 mois.
Donc là, tu es en train d'exclure Nando de l'équipe de France pour les JO. Là, c'est une révolution. Là.
Ben, je suis désolé, mais si je
appelle Nando quand même pour lui dire, pour le prévenir.
Pierre, c'est pas la révolution annoncée. Peut-être, il dit qu'il faut changer des choses, on veut pas reproduire 2016, etc. À un moment, c'est peut-être des décisions.
T'es d'accord avec Steve ?
Moi, j'hésite entre Fournier et De Colo.
L'un ou l'autre.
Si Fournier trouve pas de club, je pense que Vincent était clair aussi. 2 ans sans jouer, c'est pas possible.
Arnaud,
je rejoins plutôt Fred, mais c'est sûr que quand on voit.
Parce que tu sais pourquoi je vois que tu as de l'affection pour Nando De Colo. Je vois que ça te fait mal.
Tout le monde a de l'affection.
Nando, moi je l'adore. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on va au bout du chemin avec Nando pour service rendu à la nation et dire merci ? Ou tu fais des choix sportifs qui sont durs.
Mais qu'est-ce qu'il ne fait plus qu'il faisait avant,
parce
Nando
que si, parce que si tu dis je prends pas Nando De Colo, je t'annonce que on en fait des débats, même dans le Moscato peut-être.
Bien sûr.
Mais qu'est-ce que tu veux faire à un moment donné? Tu veux éventuellement faire podium? Bon, je dis pas qu'avec Nando c'est impossible, mais si tu veux renforcer l'ADN défensive de cette équipe de France, avoir de la jeunesse et de la fougue, moi ce que je vois de Nando cette saison, défensivement, enfin je sais pas si vous avez vu le Monaco Asvel, à un moment donné il a un passage sur Ayo Okobo. Oh, il met l'Asvel dans le trou, Nando.
Le problème, c'est qu'avant,
il était tellement fort en attaque.
Exactement, qu'il compensait ce problème défensif. Sauf que maintenant, il est moins fort en attaque, donc il compense plus, et ça devient un vrai problème.
Et là, la balance.
Alors, vu que, on va faire le débat sur les meneurs, vu que c'est un génération 2024, je vous parle d'autres postes, qui n'ont rien à voir, juste en un mot. Est-ce que ces joueurs-là sont dans la discussion, des joueurs qui ne sont pas forcément en NBA? Est-ce que Geoffrey Lauvergne est dans la discussion?
Non.
Mathias Lessor?
Oui.
Oui.
Et Vincent Poirier?
Oui.
Évidemment. Allez, les meneurs, c'est parti.
Here's Ntilikina. Great for three, and he buries it.
Ntilikina, wow. Ntilikina.
Luka double tape, wrap around, and then it's Ntilikina.
Beautiful pass. Ntilikina.
On doit le ici. Et qui va prendre ce dernier shoot.
Voilà. Absi. Bounce pass. Absi from the top. Good. Back-to-back threes.
Francisco. Shot. Francisco. Francisco. Ooh. At the buzzer, and it's good.
Killian Hayes, spot up three. Killian Hayes is having a night. Tough shot from Killian Hayes. Good steal by Killian Hayes. Another one. Killian Hayes with the floater. Pardon his French.
Man.
Alors, quel meneur pour l'équipe de France aux Jeux Olympiques de Paris? Je vous donne quelques noms qui me semblent incontournables. Thomas Hurtel, Sylvain Francisco, Franck Ntilikina, Kylian Hayes, Andrew Albici. Qui ai-je oublié, mon cher Arnaud?
Sylvain Francisco?
Non, je l'ai dit.
Je l'ai dit. Malédon?
Malédon, je ne l'ai pas dit. Il est d'accord.
Non, mais après, je ne le mets pas forcément.
Non, mais je ne sais pas. Non, c'est quoi, est-ce qu'il y a une hiérarchie réelle ou supposée, d'ailleurs, Arnaud, sur ces meneurs
c'est
de jeu?
Bordel, hein,
c'est
de meneurs,
le flou. C'est le flou. On n'oublie pas les déclarations lors du point presse bilan de l'été sur Thomas Hurtel. Il ne peut pas être appelé aujourd'hui en équipe de France. Mais le basket est le seul à infliger une telle sanction à un de ses sportifs de nationalité sportive française qui évolue en Russie, puisqu'en volet, certains joueurs jouent en Russie et peuvent jouer en équipe
après,
de France.
Après, Suta avait à moitié ouvert la porte en disant « on va voir avec le ministère ».
Sauf que Vincent Collet l'a refermé justement dans l'interview sur Bein. Il dit, on sait que c'est pas possible avec Thomas Hurtel.
Pour l'instant, c'est pas possible.
Oui, alors,
après, à voir si la situation. Andrew Albici qualifié d'erreur par Vincent Collet, l'erreur de ne pas l'avoir appelé en Indonésie. C'est ce qu'il a dit le sélectionneur de l'équipe de France, notamment après le forfait de Franck Ntilikina. On a rappelé un petit peu Rodric Beaubois, si on veut, sur ses candidats, Franck Ntilikina. Et donc Kylian Hayes, qui a vu son adresse en hausse cette année du côté de Détroit, mais qui a quitté, et ça a commencé dès la nuit dernière, le 5 majeur, puisque son coach a dit que son entente avec Kate Cunningham n'a pas forcément porté ses fruits. Donc retour sur le banc. D'ailleurs, il a fait une nuit un peu catastrophique, Kylian Hayes, mais pourtant.
Après, il avait loupé le match d'avant, il était
blessé. Il avait loupé le match d'avant, effectivement, et là, il retourne sur un rôle de rotation. Ouais, 9
coach,
points.
Son coach, ce qu'il dit, c'est que c'est pas une punition. Hein.
C'est pas une punition. 9 points, 3 rebonds, 4 passes pour Kylian Hayes avec des pourcentages un peu plus honorables. Il était c'est régulièrement ignoble. Dessous des 40%.
Il est à 39%, c'est ignoble.
Non, mais bon, il était à 35% l'année dernière.
Mais il partait tellement loin que t'as l'impression que c'est une grosse progression.
D'ailleurs, le sélectionneur s'est exprimé sur le plateau de Bein Sport hier et il constate quand même que Kylian Hayes a beaucoup progressé.
Il a eu du mal un peu dans les premiers matchs et puis depuis il est vraiment bien monté. Pour moi il a vraiment progressé par rapport à la saison passée. Donc je suis sa trajectoire avec intérêt parce que je trouve que c'est prometteur. Là, de façon régulière il a enchaîné des matchs à 6, 7 passes. De façon systématique et puis certaines fois même en commençant à scorer avec un pourcentage au tir qui s'est un peu relevé, c'était vraiment le point noir dans ses prestations l'an passé et là il y a une amélioration.
Ah oui, c'est 39%, c'est pas 35.
Un enthousiasme démesuré. Hein.
Non, mais il va aller le rencontrer. Hein. Le sélectionneur va partir aux États-Unis rencontrer plusieurs joueurs.
Content, Vincent, de la V3, c'est sympa.
Et puisque je te parlais des autres joueurs éventuellement, Théo Malédon, mais qui enchaîne un peu les DNP du côté Did Not Play sur côté Hornets, et Sylvain Francisco, quand même un petit temps d'avance pour Sylvain Francisco qui a quand même plutôt séduit le staff. Il a participé
comme
à la Coupe du Monde en Indonésie.
Faire l'Euroleague, hein. C'est bien aussi de rester en Europe pour les joueurs qui aiment l'équipe de France. Parce que...
surtout quand tu joues des compétitions FIBA.
Bah, c'est ça.
Quand t'as pas de proposition en NBA aussi.
Oui. Non, mais bien sûr, mais dans l'absolu.
Ah, mais dans l'absolu, j'ai vu.
Théo Malédon, Kylian Hayes jouerait plus et progresserait plus en Europe.
Hein, et Sylvain Francisco est aussi un produit des fenêtres, ces fameuses fenêtres internationales, sans joueur d'Euroleague et sans joueur NBA.
Alors, dans tout cela, maintenant, il va falloir faire des choix. Qui est ton meneur pour les JO, Fred?
Alors, moi, j'avais dit Franck Ntilikina. Le problème, c'est qu'il s'est blessé et qu'il s'est cassé le tibia, donc c'est difficile de juger là. Mais pour moi, pour avoir une assise défensive, il faut un mec grand, avec des grands bras, avec cette capacité de bien défendre et d'amener le ballon où il faut. Parce qu'il ne va pas être gêné de ne pas attaquer forcément. Il va pouvoir nourrir un petit peu à droite, à gauche.
Moi, c'est mon Franck Ntilikina, avant Andrew Albici, qui a aussi ce profil-là
ouais,
de défenseur.
Je prendrais Franck Ntilikina, parce qu'il a quand même cette capacité à être grand, peut-être à faire un peu de post-up aussi, et ça peut être intéressant sur des meneurs d'en face un peu plus petits.
Donc tu veux un meneur qui distribue et qui défend, pas forcément qui met des points, parce qu'on a de quoi faire aux autres postes, c'est ça?
J'espère en tous les cas qu'on a de quoi faire sur les autres postes, donc je partirai sur ça.
Quel serait ton meneur, toi, Arnaud, pour les Jeux Olympiques?
J'ai envie de dire, j'hésite entre... Alors c'est totalement opposé entre Andrew Albici, parce que je trouve pour démarrer un match, ce type de meneur petit qui te réduit sur les montées de balles, qui vient être un petit peu le poison. Moi j'ai toujours été fan, hein, moi, John Linehan était une de mes idoles. J'adorais ce genre de poison un peu, tu vois, au poste de meneur. Après pourquoi pas Kylian Hayes? Alors oui, son adresse peut faire tiquer, mais j'ai envie de le voir dans ce contexte équipe de France plus structuré.
Le problème de Kylian Hayes, c'est-à-dire que tu l'envoies au feu sur une compétition ultra importante, alors qu'il n'a pas joué un match de FIBA depuis 4 ans en fait. Ça veut dire que tu pars sur une découverte. Alors, il y a une prépa avant, mais la compétition...
Mais quelles sont les qualités qu'il a que les autres n'ont pas?
Kylian Hayes, gaucher, bon passeur. On va pas, je vais pas dire, je vais pas non plus dire que les mauvais côtés.
Panier en FIBA. Pas panier. Comment tu passes le ballon en fait? Personne, tu pas, t'attires pas les défenses. Donc c'est compliqué.
39% tir, c'est faible. Mm-hmm. C'est faible. Et un mec qui a pas gagné un match depuis 4 ans, tu vas l'envoyer au feu dans une compétition FIBA. Donc moi, je suis pas pour Kylian Hayes. Même
toi, ce serait qui ton meneur, Steve?
En fait, je pense déjà que et Vincent l'a dit. Sur ce poste-là, sur les postes extérieurs, je pense qu'il va y avoir beaucoup de garçons qui vont s'affronter pour être dans la sélection. Il va y avoir une sélection faite sur la préparation. Et je pense qu'il va y avoir 3, 4, 5 meneurs. Et Vincent Collet, en caricaturant, en disant celui qui est le meilleur, il sera. Mais moi, je ne vais pas lâcher l'affaire avec Thomas Hurtel. Moi, je te dis que c'est Thomas Hurtel qu'il faut meneur titulaire avec Franck Ntilikina.
Alors là, l'ADN défensif d'équipe de France, oui, mais on l'oublie là.
Sur d'autres points, tu l'as.
Oui, mais tu l'as. Et si tu démarres avec Victor Wembanyama et Rudy Gobert, Thomas Hurtel, qui n'est pas le plus grand des défenseurs, certes, s'il est battu,
tu peux t'arranger.
Derrière, tu as du monde. Tu as quand même des protecteurs de cercle.
Surtout, toi, tu veux coordonner sur le, dans le 5. Exactement. Dans ce cas-là, tu as quand même un défenseur aussi sur les protecteurs.
Thomas Hurtel, mais quand Vincent dit, pour l'instant, il n'est pas sélectionnable. Mais à partir du moment, si jamais Jean-Pierre Suta, le ministère, dit Thomas Hurtel peut jouer, je t'annonce que Vincent
Collet, il est là direct.
Hop, c'est le nom qu'il met sur sa feuille.
Mais en titulaire ou dans le roster?
Je sais pas, parce que Andrew, il est revenu sur la déception et son erreur. Andrew a été le grand gagnant de la Coupe du Monde l'année dernière.
Oui, c'est clair.
Parfois les absents, pas tout le temps.
Andrew a toujours fait partie des équipes de France qui gagnent des médailles. Il a toujours été dans ces équipes-là. Puisqu'on veut retrouver une ADN défensif. Mais tu me demandes mes trois meneurs. Moi, c'est Franck Ntilikina, Andrew Albici et Thomas Hurtel.
Ouais, donc deux défensifs et un
créateur.
Parce
qu'à un moment donné, tu as besoin aussi de gagner des matchs sur, pas un exploit personnel, mais sur une passe laser ou sur un coup de folie, et Thomas Hurtel est capable de le faire.
Est-ce que tu penses qu'avec Victor, il aurait tous ces ballons de fin de match Thomas?
Ouais, mais si tu joues un pick and roll Thomas Hurtel, Victor Wembanyama,
choisis ton poison.
C'est bien.
Ouais.
Ouais, parce que je suis assez d'accord. Après, Thomas Hurtel, c'est un cas très très compliqué et je sais pas s'il va être sélectionné ou pas. Donc j'ai du mal à me projeter avec Thomas Hurtel dans cette équipe de France. Ouais,
après,
les deux autres, je suis complètement d'accord.
Après, Ntilikina, la question aussi du est-ce qu'il joue, il est souvent blessé,
Franck, il a pas de chance parce qu'il était backup attitré de la Melo Ball cette année à Charlotte. La pré-saison, il avait été très bon. Il aurait dû jouer.
La Melo Ball avait beaucoup de difficultés au début de saison. Donc,
exactement. Donc il aurait joué. La blessure est cata. Maintenant, s'il est en bonne santé, Franck, pour moi, il doit jouer, mais il y a un vrai point d'interrogation sur son corps. Après, Théo Malédon, il fait sa pire saison en carrière, en termes de minutes, en termes de points, en termes de pourcentage.
C'est pas super bien passé.
Non, donc je pense que lui, il part en train de retard.
Autant Franck Ntilikina qu'Andrew Albici, ils ont aussi ce vécu avec Vincent Collet qui les apprécie tous les deux.
Oui.
Parce que Franck, il lui a longtemps fait confiance alors qu'il était en échec à Strasbourg.
Son ancien joueur, ce que j'allais dire, à Strasbourg, c'est son ancien joueur, il le connaît bien aussi. C'est important cette relation avec du coach avec son joueur.
Albici, on a Hurtel et Ice.
Non mais je comprends parce que je me dis qu'il y a Ntilikina en face de toi, tu fais une bonne zone des familles, tu sais que l'autre il va pas te mettre un tir dedans. Hein.
De toute façon, je pense qu'il y aura plus que 12 joueurs. Hein. Parce que
surtout sur les lignes arrière.
Il va y avoir du Ousmane Dieng, il va y avoir du Eliouk. Je pense qu'il va mettre un. Allez-y, mettez-vous sur la courge.
C'est Basket Time spécial Génération 2024, tous les mardis sur rmc.fr. On va faire un saut dans le temps et revenir 24 ans en arrière.
Au milieu de Bilba et Ciara, ballon récupéré, c'est gagné. C'est gagné. Et Laurent Ciara avec Makan Djoumassi. Il offre ce dernier panier à Djoumassi. L'équipe de France est en demi-finale des Jeux Olympiques.
C'est gagné. Aïe 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 aïe. L'espoir historique pour le basket français. Bravo les tricolores.
Sacré morceau pour Fred Veil pour commencer un entre-deux. En demi-finale, Thierry Gadou, le palois, Moustapha Sonko. C'est du délire, les Australiens ne savent plus quoi faire. Il reste 11 secondes et 2 points supplémentaires. Les Français qui s'embrassent, Richard. On est en finale. C'est du délire, mesdames, messieurs. France se qualifie pour la finale des Jeux Olympiques.
Honnêtement, je pense à ma femme qui m'a dit: si tu vas là-bas pendant un mois, t'as intérêt à me ramener une médaille, parce que je te vois pas pendant un mois déjà, alors qu'au moins qu'il y ait un souvenir, ben voilà, chérie, je ramène une médaille.
Génération Sydney 2000. Alors, je vais vous demander de nous faire redécouvrir cette équipe vice-championne olympique dont je vous rappelle les noms: Antoine Rigaudeau, Laurent Ciara, Laurent Foires, Makan Djoumassi, Thierry Gadou, Moussonko, Yann Bonato, Stéphane Rizacher, Crawford Palmer, Frédéric Veil, Cyril Julien, Jim Bilba. Et nous avons un guest star aujourd'hui dans Basket Time, ça se fait parfois, le requin redevenu dauphin, Laurent Ciara. Salut Lolo.
Salut les truffes.
Salut Lolo, ça va ou quoi?
C'est Steve qui m'a soufflé la définition, parce qu'il m'a dit il reste chez lui, il fait plus rien, c'est lui le dauphin maintenant.
Il sait que je vais à la bonne, donc il sait que je vais pas l'attaquer de suite. Mais vous avez bien fait, ça fait du bien d'entendre ce genre de choses.
Tu nous donneras ton avis aussi sur les JO 2024, parce qu'on vient d'en faire des débats. Juste avant, c'est la partie historique de ce podcast, et je voulais que vous vous mettiez en lumière un joueur, ou plusieurs d'ailleurs, de cette génération, pour X raisons, un coup de cœur dans cette génération 2000 vice-championne olympique à Sydney. Fred, c'est toi qui commences. Toi qui faisais partie de cette équipe.
Oui. Il s'est choisi.
C'était difficile de choisir. Alors non, je ne me suis pas choisi réellement. J'ai choisi les intérieurs de cette équipe.
Ah, t'as pas choisi Lolo qui vous a fait plaisir toute la compète.
Mais pour toi, il était sous-évalué peut-être, pas pour moi. Pour moi, il avait ce niveau-là. Excuse-moi. Moi, je respectais Lolo déjà.
Donc, parce que lui, il te respectait.
Alors pas toujours. mais avec le temps, ça s'est amélioré.
Lolo, tu le respectais, Fred, quand même? Il était
non.
jeune.
Est-ce que tu l'as mis 2-3 ballons dans la tête parce qu'il n'était pas...
Lui et son compère Cyril Julien, ils en ont pris quelques-uns. Mais bon.
Ouais, ça gueulait
guerre.
Beaucoup. Mais c'est
une bonne guerre.
C'est des gentils, les meneurs. Ils aiment bien engueuler les grands sur le terrain. Après on est
les meneurs. Mais sans nous, vous ne pouvez pas jouer, les gars.
Mais l'inverse est vrai. Et d'ailleurs, c'est là que je...
Je ne sais pas si c'est vrai l'inverse, mais vous, sans nous, vous ne pouvez pas jouer. Ça, c'est sûr.
Okay, en tout cas, tu voulais mettre en valeur les intérieurs de cette équipe. Alors vas-y, on t'écoute.
Et Laurent vient exactement d'expliquer ce que je pense. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression que sans les intérieurs, la France a fait plein de performances. Alors oui, il y avait plein de super joueurs sur les postes extérieurs, dont Laurent Sierra, évidemment. Mais à l'intérieur, on l'oublie trop facilement. Il y a eu des joueurs qui ont fait le taf. Et tu vois, par exemple, quand je pense au match contre le Canada, tout le monde parle de Macan Dumassy qui a éteint Steve Nash. Il faut regarder comment les intérieurs sont sortis sur les pick and roll. Ils sortaient jusqu'au milieu de terrain pour l'aider.
T'arrives à faire les step-out, toi, Fred?
Eh bien, regarde le match. Je pense que j'ai jamais fait des step-out comme ça de ma vie.
C'est vrai?
Non, mais vraiment. Et je suis pas...
Heureusement, parce que sinon, t'aurais joué à NBA, gars, si t'avais fait des step-out.
Exactement.
Il était pas loin.
Concrètement... On a défendu comme des chiens, on a été là, on a affronté des joueurs qui étaient bons. Par exemple, l'Australie, il faut se rappeler aussi qu'il y avait Luc Longley, un joueur NBA, et on a aussi...
Non. Ah oui, pardon. Oui, vas-y, pardon, je t'ai coupé.
Non, pas de problème. Et donc, je pense que le jeu intérieur de cette équipe de France a été un peu sous-côté, parce qu'il y a eu un vrai apport de ce secteur.
Donc, Cyril Julien, Jim Bilba, Fred Weiss, Crawford Palmer,
Thiago un peu, qui a pas, beaucoup moins joué, mais c'est vrai que les quatre là, je pense qu'ils ont donné leur pierre à l'édifice. Alors, c'était moins flashy et moins beau que ce que peuvent faire les extérieurs, mais ils ont fait le taf.
Ok, qui voulais-tu mettre en valeur, Arnaud? Voilà, donc.
Alors, je sais pas... sous-côté, mais je trouve peut-être pas assez mis en lumière aujourd'hui, c'est Yann Bonato. 2m01, ailier évidemment international, surnommé l'Aliane, 92 sélections. Alors c'est vrai qu'il y a cette malchance, il se blesse en quart de finale.
Après, il sortait d'une saison très compliquée avec Limoges, qui moralement et mentalement avait été très très éprouvant.
Mais tu vois, la façon dont il a dominé le basket français dans les années 90, donc outre Sydney 2000, il est là pour le triplé de Limoges en 2000, championnat, Coupe de France, Coupe Corach. Il y a des fois... c'était une forte tête. L'Humanité en 95 disait même que c'était un peu le Eric Cantona du basket. On lui prête...
Alors, ce qui est bien, c'est qu'il n'a pas fait de concert comme Canto après.
Il est resté
dans les lunettes.
Rivalité avec Tariq Abdulouad qui le prive de l'Euro 99. On ne sait pas trop où se situer. Champion 2002 aussi avec l'ASVEL. Double MVP de Pro A, 95 avec le PSG Racing, 97 avec le CSP. Meilleur marqueur français du championnat, 23 points par match. Alors pourquoi sous-côté? Peut-être qu'on ne se souvient pas de ses formidables qualités d'attaquant. L'Euro 95, il termine 3e meilleur marqueur de la compète derrière Arvidas Sabonis et Sarunas Marciulonis. C'est quand même pas rien quand tu vois ce qu'il a réussi à accomplir. Et j'ai retrouvé une magnifique déclaration à propos de la fameuse baisse de salaire à Limoges 2000 pour terminer la saison. C'était de l'improvisation totale. J'ai dit aux gars que comme Fred et moi avions les plus gros salaires, on allait les réduire de 70%. Fred m'a alors regardé et de mémoire m'a répondu: faut que j'en parle à ma femme.
C'est vrai, c'est une anecdote.
J'ai l'impression que Fred, il fallait qu'il dise beaucoup de choses à sa femme.
Lolo, c'est pas moi qui avait qui faisait la loi.
70%, c'est beaucoup. Dis-nous un mot de Yann Bonato, Laurent.
Ah mais moi, je rejoins tout à fait ce qui a été dit par Arnaud juste avant. Moi, je ne dirais pas qu'Yann a été sous-coté, loin de là, mais on a tendance à oublier le joueur qu'il était, le leader dans son style qu'il était. C'était pas un vocal, c'était un mec assez auto-centré sur lui. Mais tu peux être sûr que match à 15h, il était prêt, match à 19h, il était prêt, match à 20h, il était prêt. un combattant, voilà, là, les gens maintenant ont tendance à oublier parce que physique atypique dans le sens pas morphotype comme maintenant, alors que c'est quand même un garçon qui poussait 115, 120 en développé couché. Je rejoins Fred, il a vécu une année 2000, 99-2000, terrible parce que on se rappelle des histoires du CSP Limoges, qu'il a tenu cette équipe à bout de bras avec d'autres, mais les réunions, c'est lui qui se les tapait. Et en quart de finale, malheureusement, son tendon d'Achille n'y a pas survécu. Après, on ne peut pas juste sortir pareil. Autant je peux chambrer les grands sur la nécessité d'avoir les petits. Je rejoins aussi Fred sur ce qu'il dit. Alors après, lui, Cyril, mais surtout Jim. Quand tu, je dis souvent, tu sais le niveau de Jim Bilba quand tu ne joues plus avec lui. Mm-hmm. Tant que tu joues avec lui, tu trouves que c'est normal. Le jour où il n'est plus là, que c'est un garçon qui était capable de défendre sur trois mecs en même temps, voilà, tu t'en aperçois. Et par contre, je rebondirai aussi sur ce qu'a dit Yann, la petite anecdote sur Fred. Moi, il m'a toujours dit que le jour où sa femme lui achetait des jeans, elle lui cousait les poches. C'est vrai, Fred, ou pas?
Franchement, j'ai du mal à les découdre encore depuis le temps.
On m'a dit que t'étais un peu pince. Bon, c'est ce qui se dit. Moi, on n'a jamais fait la bringue ensemble parce que tu préférais jouer à la PlayStation que venir voir des coups.
C'est vrai.
Mais apparemment, Célia, de mémoire, te cousait les poches. C'est ce que m'a dit Yann. Hein, donc
eh bien, Yann avait complètement raison.
Non, il est capable de. Aujourd'hui, Lolo, il est capable de payer son coût, Fred.
Ouais. Non, mais quoi, il paye des cafés à la rédac. Bon, les cafés sont gratuits, c'est à le base.
Ouais, ouais, bon, en même temps.
Steve,
bon,
c'est bien. Quatre joueurs as-tu choisi de mettre en valeur dans cette génération 2000?
Bah, écoute, moi, j'ai choisi. Lolo disait que Yann était un petit peu auto-centré sur lui et taiseux. Moi, j'ai pris un autre taiseux. Je pense que Stéphane Rizaché était aussi un petit peu un taiseux. Quatrième plus gros temps de jeu de la compétition assigné derrière Antoine Rigaudeau, Jim Bilba et Lolo. C'était le poste 3 titulaire de cette équipe. Gaucher, grand, athlétique, 124 sélections en équipe de France. C'était la dernière année de Rizac, d'ailleurs, en France, après ces Jeux, puisqu'après, il part à l'étranger, à Olympiakos et à Malaga, où il est champion d'Espagne en 2006. Il gagne une Coupe du Roi. Il a été 3 ans, je crois, le coéquipier de Laurent au PSG Racing, il me semble, à Lolo. Ouais. Rizac, sur la compétition, c'est quasiment 10 points de moyenne avec des très bons pourcentages. Et Lolo est le meilleur joueur de la finale face aux Américains. Et le deuxième meilleur scoreur de ce match-là, c'est Rizac, où il fait 15 points, 3 rebonds en 34 minutes. Et si j'avais envie de parler de Rizac, c'est que parce qu'aujourd'hui, pour les plus jeunes qui écoutent Basket Time, ça parle pas beaucoup Stéphane Rizaché, mais peut-être que le nom de famille parle.
Quand même.
Parce que voilà, parce que Zachary, qui est aujourd'hui à Bourg-en-Bresse, est en plein développement et que sûrement en juin 2024, son nom sera appelé à la draft.
Voilà. Justement, on fait une petite parenthèse, on est sur un spécial génération 2024, on le compte Zachary Rizaché
pour Paris 2024?
Ouais, dans les candidats.
C'est trop tôt. Ouais, je pense que c'est un peu trop tôt.
Laurent Sierra, non? Pareil?
Non, mais il y a beaucoup de monde, les gars, vous rigolez ou quoi là? J'ai pris en cours votre émission. Vous imaginez le matos qu'il y a là? Mm-hmm. Déjà Vincent Collet, il se prend les pieds dans le tapis avec des 2-3, des 3-2, des 3-4, des 4-3. Si en plus vous rajoutez le gamin, non, moi je. Après, je change de sujet, mais je ne vois pas une révolution de palais pour Paris 2024.
Ah, tiens, Lolo,
alors, tout à l'heure, on a eu un débat sur Nando.
Qu'est-ce que tu penses? Parce que moi, alors je sais que toi, ça va te faire grincer des dents, parce que Nando, tu as une relation particulière avec lui. J'ai quelques doutes sur Nando aujourd'hui.
Mais il ne pourra pas, Stéphane. Même si demain, la seule chose qui peut sauver Vincent Collet concernant Nando De Colo, c'est s'il se blesse. Il ne peut pas aller contre ces mecs qui ont fait le sélectionneur qu'il est. C'est à l'image de 2016. Il est allé au bout du processus avec cette génération Tipeee, Boris, Flo, j'ai la balle et je vais en oublier. Là, 2024, il ne peut pas. Même si demain, ce que je ne pense pas, il y a une révolution de palais, ça ne pourra pas se passer. J'aimerais te dire oui, mais ça correspond de dire... Ça ne va pas que pour Nando, ça va pour Batum, ça va pour Fournier, ça peut aller sur plein de gars, parce que cette équipe, elle, par la force des choses, elle est vieillissante. Je vois pas Collet se prendre une sève monstrueuse et de dire, allez, 2024.
Mais
j'ai pas ce qui s'est... Non, c'est impossible.
Mais tu peux mettre un coup de jeune avec des Koulibaly, avec des Isaac Cordigné, avec Victor qui va être là. Donc tu peux mettre un petit coup de...
Ah non, mais attends, Stéphane, moi je te dis pas ça. Je te dis juste que si demain Vincent Collet fait ça, je tombe de ma chaise.
Ouais, moi, c'est une question pour Lolo. Toi qui es meneur de jeu dans l'âme et qui voit bien le jeu, tu vois qui elle amène justement cette équipe de France ?
Ah ben moi, à part Hurtel, à part ramener Hurtel, Nando sur des petites séquences, arrêter de le faire jouer meneur de tête, ouais, ce qui a été une énorme erreur à la Coupe du Monde, une énorme erreur de le mettre lui, comme de mettre Batum. Batum, maintenant, ça doit partir du banc. Voilà. C'est des mecs, ils ont assez d'expérience, ils ont assez leur ego qui a été sublime pour accepter ces missions. Tu dois partir avec le petit cordinier, tu dois mettre des Fournier, tu lui fais bien prendre conscience que maintenant, voilà, où tu t'y mets des deux côtés du terrain et ce n'est pas juste 30 minutes en attaque. Et si tu n'es pas capable de faire ça, on court à une grosse désillusion. Mais en même temps, je vous ai assez entendu, et d'ailleurs toi Stephen, très très bien entendu, et tu as tout à fait raison de ce que tu as dit après ce naufrage de la Coupe du Monde. Là maintenant, j'attends de voir les bonhommes l'été prochain. Tous ceux qui ont jacté, tous ceux qui ont essayé de mettre la faute sur la fédération, sur la ceci, sur les politiques, nanana, nanana, stop. Là, on parle d'une année 2024 chez toi, Jeux Olympiques.
Donc Thomas Hurtel.
Si ton ego... Comment ?
Donc Thomas Hurtel, c'est réglé
mais
pour
là,
toi.
Mais là, mais qui tu veux mettre en ce moment ? Malédon, il a disparu des radars. Hayes, moi j'en entends parler, mais avant qu'il se refasse aux Jeux Européens, pourquoi pas en joker ? Après, qui tu veux mettre dans même Pierre, tu regardes le championnat de France. Tu mets qui ? Championnat de France, tu mets qui ? Tu vas pas mettre Benitez, tu vas pas mettre Axel Julien.
Nadir Hiffy.
Ouais, tu pourrais, mais là
mais
aussi.
Pas, mais on est pas sur de l'organisation, là, Nadir Hiffy.
Non, mais donc c'est ce que je te dis. Quand tu commences à faire un peu le tour des popotes, sur ce poste-là, autant sur les autres, je trouve qu'on est mais alors gavé, autant sur ce poste-là, ou alors tu fais comme Obradovic et t'acceptes. Quand tu décales au Kobo, qui pour moi n'est pas son poste, mais comme Nando, c'est plus son poste. Donc, est-ce qu'il ne faut pas mieux des mecs que tu es sûr, ils ont le niveau de l'Euroleague, et après, va savoir l'importance que va prendre Wembanyama, parce que c'est la planète Mars.
Lolo, tu nous régales, on te garde pour le quiz de Basket Time. Basket Time, c'est parti, votre podcast basket. On démarre sur des questions sur les loups.
Ah, donc
c'est une petite fantaisie que je m'autorise parfois. Le loup, c'est la même famille que le chien. C'est un canidé.
Écoute, plusieurs fois, j'ai sprinté avec des loups.
Je pense qu'il y a bien une espèce de loup qui est sprinter, donc je vais dire oui.
Absolument, c'est la vitesse de...
Qu'est-ce que c'est que cette émission ? Alors que Garou, c'est sous le vent, et si tu crois que
on va
c'est...
Voilà,
et je remarque, loup, Garou, tout ça sous le vent, tout se tient.
Un loup peut entendre un autre loup hurler jusqu'à 10 km.
C'est sûr que oui.
Eh bien, c'est tout juste vrai. Voilà, c'était le quiz sur les Minnesota Timberwolves, vous m'avez surpris, mais c'était sympa. Tu vois, on apprend des trucs sur les loups dans Basket Time, Lolo, Ciara.
Non, mais ça avait commencé le jeu, là ?
Non.
Oui, il fallait s'en dire.
Alors, vous savez ce qu'on va faire ?
Non, parce que je vous écoute au Kikadi, c'est plus clair quand même.
Oui, mais le Kikadi, c'est une institution, tu sais, on est candidat au programme des Jeux Olympiques quand même, donc il faut nous respecter. Ouais, hein.
Putain, je sais pas quel sport ils vont enlever pour mettre le gros, faire le Kikadi, ça va être
Bah, ils ont l'air de bien 7.
Voilà.
C'est, le thème du quiz, ce sont les Jeux Olympiques. On l'a jamais fait.
Okay. C'est un 2 contre 2 ?
C'est un 2 contre 2. On va faire Génération 2000 contre Génération 2024. Donc Lolo avec Fred Weiss et Steve avec
Arnaud. On va voir là, si c'est le meneur ou si c'est le pivot qui fait gagner.
Est-ce que vous êtes prêts ?
Moi, je mettrai une pièce sur le meneur. Là.
Allez, c'est parti. Ça va aller vite. Chez les hommes, qui est champion olympique de basket en 1988 ?
L'URSS ?
L'URSS, bravo. Il n'a pas dit la Russie, il s'est repris. Il a dit l'URSS de Sabonis qui bat la Yougoslavie en finale.
Parce que c'était le deuxième meneur.
Parce que l'URSS avait battu les États-Unis en demi.
C'est quoi ? Tu sais ce qu'il vient de faire, Lolo, là ? En disant, oui, c'était Obradovic. Il vient de faire une Eric Dimeco qui n'a pas trouvé la réponse et il te donne des petites infos supplémentaires.
Ah non, je ne sais pas. J'essaie juste de, tu vois, de vous remettre dans le sens
de l'ordre.
Aussi,
quoi. Ah oui. Bon, Steve marque le premier point. Dans cette équipe de Yougoslavie, tiens, justement, quel joueur est aujourd'hui coach en Euroleague ?
Obradovic.
C'est Obradovic.
Je viens de vous le dire. Les gars, je vais anticiper là.
Franchement, j'ai envie de lui donner.
Mais franchement, le point, il est avant.
Ouais,
il est
avant. J'ai envie de lui donner.
Les gars, je vous ai fait croquer. Tu vois, Fred, l'anticipation du meneur de jeu.
C'est ça. Mais il faut pas trop. Alors, tu vois, le problème, c'est qu'il faut pas trop anticiper, tu vois.
Je le donne à Lolo parce que sinon, j'ai peur qu'il s'énerve.
Bravo, un partout.
Donc, ça fait un partout. Allez, chez les femmes, qui est vice-champion olympique en titre ?
France.
Japon.
Le Japon, bravo Arnaud.
Bravo, elles nous ont fait mal, elles ont tapé deux fois d'ailleurs.
Deux fois, exactement.
Toujours chez les femmes, dans l'histoire et dans le palmarès des JO, quelle nation compte le plus de médailles d'argent?
Australie.
Yougoslavie.
C'est l'Australie de Lauren Jackson. Bravo, 2000, 2004, 2008, 3.
Et là, le basket féminin.
Finale perdue d'affilée, ça fait 3-1 pour Steve et Arnaud, la génération 2024. Tiens, tour à tour, je vais vous poser une question, chacun votre tour. Vous allez me dire oui ou non, ce joueur est champion olympique, tout simplement.
Très bien.
D'accord, ça vous va? Donc on va faire 1 sur 2, du coup on démarre avec Fred Weiss. Champion olympique ou pas champion olympique? Allen Iverson.
Pas champion olympique.
Pas champion olympique, c'est bon. Lolo, tu réponds pas quand c'est pas à toi. Hein.
Ah pardon.
Arnaud, Karl-Anthony Towns, champion olympique ou pas champion olympique?
Pas champion olympique.
Pas champion olympique, c'est bon.
C'est simple ça.
Bah oui.
Steve.
Non, c'est Lolo.
Lolo, exactement. Lolo. Stephen Jackson, champion olympique ou pas champion olympique?
Je dirais oui.
Il n'est pas champion olympique, donc tu marques pas le point.
C'est pas le bon Stephen.
Steve.
Oui.
Richard Jefferson, champion olympique ou pas
Richard Jefferson
champion olympique?
Donc là, il y a eu 3 mecs qui n'ont pas été champion olympique. Est-ce que tu as fait 4 sur 4, Pierrot? Je pense que Richard Jefferson est champion olympique.
Il n'est pas champion olympique. Repart sur Fred. Wilt Chamberlain, champion olympique ou pas champion olympique? Ah, c'est dur, hein, ces années-là. Hein. On ne sait pas, parce qu'on ne parlait pas des footés, surtout à cette époque-là.
Ouais, j'ai envie de dire champion olympique.
Il n'est pas champion olympique.
Ah oui, 5 sur 5, quoi.
5 sur 5. Ensuite, on passe à Arnaud. Jerry West, champion olympique ou pas champion olympique?
Pas champion olympique.
Il est champion olympique en 1960.
On a bien compris la règle du jeu, quoi, nous.
Steve, Lolo, Isaiah Thomas, champion olympique ou pas champion olympique?
Non.
Et non, il s'est fait carré par Jojo. Bien, ça
mais
fait un point.
Oui, en 92, Jojo, il a mis une belle petite carotte.
On termine avec Steve. Bill Russell, champion olympique ou pas champion
Bill
olympique?
Russell.
Ah, Bill Russell.
Ouais, je pense que c'est bon, Billy. Tu vas me dire que là, tu as fait 8 questions et il va y avoir qu'un mec champion olympique. Je vais dire Bill Russell, il a été champion olympique.
En 1956, il est champion olympique. Le score, je vous fais un point sur le score. 5-3 pour la génération 2024.
Enfin, la génération 2024, ouais. 3 ans de moins que nous. Hein.
Donc, on va bientôt arriver à la fin, là. Quel finaliste, écoutez bien, concentrez-vous bien. Quel finaliste des Jeux Olympiques 2004, on est chez les hommes, est coach aujourd'hui en Euroleague? Pozzecco, excellent Fred.
Eh oui, bravo.
Quelle rapidité.
La mouche atomique.
Avec l'Italie, avec donc vice-championne olympique.
Ça aurait été sympa, Pozzecco, coach de Lolo Sierra.
Ah, ça aurait été très calme.
Pas de réaction, Lolo.
Non, moi j'aime bien le personnage.
Oui,
après,
j'aime bien le personnage. Après, tactiquement, j'aimerais bien qu'il propose des trucs maintenant.
Non, mais ça c'est pareil. Après, moi, je pense que sur la durée, il doit gentiment te fatiguer. Waouh, wow, il a une énergie, ce con. Tu me diras, un joueur, il était comme ça. Hein.
Ouais, ouais. T'as joué contre lui, toi, plusieurs fois?
Ouais, plusieurs fois, mais je comprends. Moi, j'ai été pendant longtemps en contact avec Andrea Meneghin, qui a été son coéquipier aussi bien à Varese qu'après à la Fortitudo. Il m'a dit, Lolo, lui, il se fatigue du matin au soir. Il est fatigant. Moi, je pensais que j'étais quelqu'un de fatigant.
Ouais, je confirme.
Je pense que lui, il doit t'user.
Bon, le score, c'est un point d'écart seulement pour Steve et Arnaud. Allez. Dernière question avant la question multipoint. Okay. Je vous donne 4 noms. Et là, le cinquième, bim, il doit apparaître. Okay, c'est logique. Okay. Enfin, c'est de l'histoire du basket et ça concerne les Jeux Olympiques.
Très bien.
Okay, vous êtes concentrés?
Oui.
Ricky Rubio, Patty Mills, Luka Doncic,
Tony Parker,
Kevin Durant et le cinquième,
Carmelo Anthony.
Pau Gasol.
Non, c'est pas la bonne
Calderon.
Réponse.
Calderon.
Pau Gasol.
Non, je vous répète les 4.
Scola.
Ricky Rubio, Patty Mills, MVP. Luka Doncic, Kevin Durant.
C'est les mecs qui ont mis des points.
Ouais, c'est les mecs qui ont mis beaucoup de points.
C'est les mecs qui ont été MVP des jeux. C'est les mecs qui ont.
Non.
C'est récent, hein. Je vous dis tout de suite, c'est récent.
Le mec qui était le meilleur marqueur d'une compétition.
Non, c'est dans la même compétition tout ça.
Ah, c'est le meilleur 5.
Le meilleur 5
des Jeux Olympiques de Tokyo.
Donc,
et donc, il vous manque qui?
Rudy?
Rudy Gobert, Rudy Gobert, excellent Arnaud, bravo. Rudy Gobert.
Bah, Rudy Gobert, il a été dans un 5.
À Tokyo, oui.
Oui, mais toi, c'est ton problème, tu respectes pas les 5.
Il respecte pas les intérieurs, c'est incroyable.
Ah non, non, mais non, mais non, mais je te confirme.
On lui fera écouter à Rudy la prochaine fois qu'on l'aura à l'eau.
Non, mais il n'y a pas de souci, vous pouvez faire écouter. Par contre, vous lui faites aussi, vous donnez l'affiche des potentiels MVP de 2023 aussi pour qu'il s'en rappelle.
il est déchaîné, Lolo. Bon, il y a deux points d'écart. Vous pouvez encore gagner. Vous pouvez encore gagner grâce à la question multipoint. Chacun votre tour. Vous allez me donner un nom dans une liste de 12, un roster complet.
Ouais.
Et puis dès qu'il y a une équipe qui est éliminée, et l'autre marque des points. D'accord. Ok, c'est bon. Voilà.
Donc,
je vais vous demander.
Un joueur de l'équipe peut être éliminé, l'autre il est encore en course.
Oui.
C'est par exemple Arnaud Fécaud,
c'est pas bête. Allez, c'est bon, on va faire comme ça. On va faire comme ça, ça marche.
Non, mais attends, mais lui il décide des règles aussi, lui. Non, parce qu'attends, j'ai compris que c'était son émission, mais il décide des règles. Le type, on lui dit que c'est 24 secondes, lui il veut passer aux 30 secondes.
C'est vrai que. Allez, c'est Geoffrey, notre producteur, qui va décider. Est-ce qu'on fait par équipe ou par joueur ? Par équipe, il a dit. Donc premier échec, c'est fini.
D'accord. Enfin, quelqu'un d'honnête dans cette émission.
Putain, alors, mais méfie-toi que ce soit pas toi, Lolo, qui fasse sauter ton équipe.
Ah, bon, c'est possible. Hein.
Vous allez me donner.
Je suis pas bon à ce jeu-là.
Tour à tour, le nom d'une des 12 vice-championnes olympiques de Londres en 2012. L'équipe de France de basket.
Les braqueuses.
On démarre avec Frédéric Weiss.
Céline Dumerc.
Céline Dumerc.
Tu aurais pu la laisser à Lolo. Hein.
Ah, tu ne savais pas.
Arnaud Valadon.
Emeline Ndong.
Emeline Ndong.
Ding dong.
On la salue, elle qui a participé à ce podcast. Laurence Ciara.
Sandrine.
Sandrine Gruda, c'est bon. À Stephen Brun.
Isabelle Yakoubou.
Yakoubou, c'est bon. Fred Weiss.
Émilie Gomis.
Émilie Gomis, ça passe sans problème. Arnaud Valadon.
Ouais, bah, fais pas le con, Arnaud.
Elle lui souffle pas, toi. Hein.
Ah non.
Gaël Skrela.
C'est pas bon. Oh, crac, allez, un de moins.
C'est le seul nom qui te vient.
T'as entendu ce qu'il a dit, Lolo?
J'ai dit quoi? T'es sérieux?
Je sais pas.
Il a dit t'es sérieux, mais avec les mots de Laurence Ciara. Hein. Lolo, c'est à toi.
M'a coulé. Hein.
Émilie Godin.
Émilie Godin.
C'est Élodie.
Élodie.
Ah, tu m'as eu là, Lolo, c'est celle que j'avais.
Ouais, bah, je le compte pour Lolo.
Bien sûr. Bon.
On est ensemble, Fred.
Oui, je sais, mais c'est que.
On arrive sur Steve.
J'ai perdu, moi, il a perdu.
Ah, bah oui. Donc ça fait un point.
C'est fini le jeu.
Non,
merci.
Non, non.
Merci,
ah non, parce que vous êtes en retard.
Un point, il y a toujours 6-5 pour Steve et Arnaud. Fred, il en reste 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et franchement, dans les 6, il y en a au moins 2. Bah, alors, il y en a qui sont durs, hein, mais il y en a 2 qui sont faciles. Hein, vraiment faciles. Hein.
Ah, come on, mais...
Pense au cadre de l'équipe de France quand même. Il y en a au moins.
Yakoubou ?
Ah non, je l'ai dit.
Ah, tu as dit ?
Ah, déjà dit, éliminé. Donc, Lolo, c'est toi qui dois faire gagner ton équipe.
Bah non,
il est éliminé.
Éliminé l'équipe.
Ouais, c'est vrai, merde. Non, t'es pas... Hey, Jojo, t'es pas
on bien. On fait un duel, Lolo, moi, parce qu'on est les deux à pas dit de mauvaise réponse.
Okay.
Oui, alors, ils finissent.
Ok, j'accepte.
Okay.
Donc, du coup, maintenant, tu remarques des points maintenant. Hein.
D'accord.
Ok. Allez, il en reste 6. À toi, Steve.
À moi ?
Mmh.
Florence Lepron.
C'est excellent, la meneuse de Tarbes, ça fait un point. Et donc,
là,
ils reprennent deux points d'avance.
Oui. Pierre, là, il a fait comme le gros, il a regardé son portable.
Non,
il ne triche pas, et c'est un homme honnête, Stephen.
Des fois,
il peut péter des câbles, mais c'est un homme honnête. Laurent, à toi.
Je suis. Valériane.
Aïe, c'est un peu jeune, ça.
Non, c'est pas bon. Tu les as, les autres?
Je pense qu'il y a une jeune Ndemiyem.
Ndemiyem, c'est bon, bien sûr.
Ah oui.
Et après,
Edwige Lawson,
c'est bon.
Et t'es content maintenant, tu dis des bonnes réponses une fois que t'as dit qu'elle serait là.
Et il vous en manque deux.
Et Jennifer Digbeu, bien sûr.
Jennifer Digbeu, bravo, excellent. Jennifer Digbeu.
Pauline Cambi, non, c'est.
Non, il vous manque une arrière de
très
Saint-Amand.
Compliqué à trouver, qui s'appelle Clémence Bekes.
Voilà, bravo.
Mais je l'avais là. Aussi.
Victoire de la génération 2024, bon, qui est déjà vieille pour 2024. Arnaud et Steve, vous avez battu Fred et Lolo Ciara, vous avez battu des vice-champions olympiques.
Bah, qu'est-ce que ça se respecte.
Merci Laurent.
Merci
Laurent.
Merci
beaucoup. Bye.
Soyez sérieux, à bientôt.
Ciao.
RMC Basket Time.